Nous allons reprendre avec Jérôme Tello, dont l'ouvrage a déjà été cité, je ne sais plus par qui, je crois que c'était par Pierre Brunel, livre important, Baudelaire, violence et poésie, publié en 1993 chez Gallimard. Et il est l'auteur d'autres livres, mais je voudrais en citer un que j'ai dû citer dans mon cours à propos de la photographie et qui a été, je crois, de nouveau cité la semaine dernière par Jean-Christophe Bailly, qui a lui aussi parlé de la photographie. Un livre qui porte pour titre « Les inventions littéraires de la photographie », publié en 2003 au PUF. Ce matin, son titre est « La prosodie comme travail et la question de l'histoire ». Vous avez la parole.
Je vous remercie. Et d'ailleurs, ce sera mon premier mot, vous remercier pour cette invitation qui honore et qui fait bien plaisir. Deuxième mot pour, évoquer brièvement un préalable. Moderne, qu'il s'agisse d'un concept ou d'un déictique, moderne ne s'élucide que par le fond d'une réflexion historique. Toute thématisation du moderne s'adosse à une historiographie, au moins ceci est sûr, moderne vise une détermination de l'histoire. Poser d'entrée la question de savoir si ceci ou cela est moderne ou ne l'est pas, de telle façon ou de telle autre, c'est poser une question historiographique en un sens éminent, une question dont le présupposé est que l'histoire prévaut sur ce qui n'est pas elle. Exemplairement, la question de savoir si Baudelaire est moderne et comment il l'est porte en elle une précompréhension, de ce qu'elle nomme, de ce nom de Baudelaire, de ce qu'elle vise sous ce nom. Elle présuppose que Baudelaire, alors cette fois entre guillemets, a pour contenu essentiel un contenu historique dont il revient à l'historiographie d'élucider les traits. Qu'on sache ou non exactement ce que moderne veut dire, placer ce nom de Baudelaire sous la lumière de cette question, c'est préalablement identifier les problèmes baudelairiens à des problèmes historiques. Ce n'est pas seulement s'engager à déployer ce qu'il faut toujours faire, ce qui du poète ressorti à l'histoire, c'est présupposer plus originairement que l'histoire est l'horizon où le poète a sa vérité. Alors, je veux faire aujourd'hui valoir, non pas exactement un autre chemin, mais une autre conception. J'exposerai pour ma part que Baudelaire, alors, disons, la sorte de vérité que je vise sous ce nom de Baudelaire, n'est pas un phénomène historique, n'est pas une détermination de l'histoire, n'est pas justiciable d'une historiographie. Et ce à quoi une historiographie du moderne doit conduire, c'est à cette vérité, pour le coup, non historique, hétérogène à la question posée sous ce titre de moderne, cette vérité qu'il convient, me semble-t-il, d'appeler la poésie, ou plus exactement, le travail de la poésie, et plus précisément encore, le travail de la prosodie. Cette vérité selon laquelle le poète fait quelque chose, si cela peut s'appeler quelque chose, comme il dit lui-même dans la dédicace du Spleen de Paris, de singulièrement différent, je le cite encore, de singulièrement de ce que fait l'histoire. Ce dont Baudelaire témoigne, du moins ce que le travail baudelairien donne à comprendre, c'est que les phénomènes historiques eux-mêmes, et par exemple ces phénomènes qu'on dit modernes, n'ont pas leur naturant dans l'histoire, ne sont pas fondés par celle-ci, ont une origine non historique qu'il faut donc dire métaphysique ou métahistorique. Mais cette vérité, à supposer d'ailleurs qu'on la constate et qu'on l'adopte, encore faut-il comprendre qu'elle fournit le motif, à mon sens, et la raison de l'ambivalence de Baudelaire à l'endroit de la modernité. Quelle est la cause des contradictions de son rapport à son histoire ? Si Baudelaire s'en est pris avec quelque violence à son siècle, comme il aimait à dire, s'il a vitupéré contre tant d'aspects et contre le cours même de son époque, c'est pour cette raison que son travail, sa prosodie comme travail, lui révélait quelque chose d'absolument hétérogène à ce siècle et se révélait comme d'une autre essence que l'histoire. La question du moderne est de bonne méthode, pour autant qu'elle conduit, par l'élucidation du travail baudelairien, au dégagement du fondement non moderne de toute modernité, du naturant non historique de toute histoire, en vertu de quoi Baudelaire a pu s'opposer, non sans contradiction, à la modernité. Alors, premier point, quel est ce travail, quel est donc ce travail de Baudelaire, et d'où vient qu'on puisse en opposer les traits à ceux de l'histoire? Pour poser comme il faut, c'est comme il convient, ces questions, je m'en remets d'abord à l'autorité d'une proposition assez provocante qu'il a formulée dans l'un de ses premiers essais, Conseils aux jeunes littératures, qui a paru en 1846. Cher André, voilà un exemplier à vous seul réservé. Vous saurez en profiter pour tous. Donc, que dit-il en 46? Eh bien, ceci: tout homme bien portant peut se passer de manger pendant 2 jours, de poésie jamais. Cette boutade peut servir, me semble-t-il, d'introduction à l'analyse des réflexions de Baudelaire sur son travail. Si nul homme bien portant ne peut jamais se passer de poésie, lors même qu'il peut ne pas manger pendant 2 jours, c'est pour autant que la poésie correspond à un besoin fondamental, une nécessité rigoureusement irréductible qui conditionne tout simplement la vie humaine à quelque chose comme un vouloir antérieur à toute volonté, antérieur même à la liberté et aux délibérations de la conscience, et qui impose satisfaction. La poésie n'est pas facultative. Il la faut à tout homme bien ou mal portant. Et elle n'est pas seconde. Elle veut d'abord et toujours être satisfaite. Eh bien, cette détermination de la poésie comme besoin assigne la condition de l'homme à une essence anhistorique, à cette essence, dit ici, de l'homme bien portant, qui est celle simplement de la vie. L'homme, selon Baudelaire, est un individu vivant. C'est comme tel qu'il est assujetti à ses besoins, dont la satisfaction ne peut être différée, et c'est comme tel qu'il n'est que secondement un sujet historique. Par exemple, si le narrateur personnage du poème en prose « Le gâteau » doit interrompre, vous vous souvenez, son ascension en voyage, son ascension en montagne, et bientôt la rencontrer, la réalité qui va invalider ses chimères, c'est-à-dire qui va invalider ses hypothèses intellectuelles, historiquement déterminées, celles-ci, c'est parce que, je cite, « la matière incurable renouvelant ses exigences, l'oblige à soulager sa faim et, je cite encore, à tirer de sa poche un gros morceau de pain. » Ce matérialisme charnel, dans lequel le mot « matière », c'est très intéressant cela à mon sens, dans lequel le mot « matière » signifie très exactement « subjectivité », ce matérialisme charnel décrit l'incarnation comme ce qui invalide les théories, décrit le besoin vivant comme ce qui disqualifie les philosophies de l'histoire, dont celle de Rousseau, à laquelle il fait allusion dans, privilégiément dans ce texte. Et Baudelaire n'a jamais cessé de se vouloir aussi fidèle que possible à la vie incarnée des individus réels. Je cite le premier essai sur Pierre Dupont, dont parlait tout à l'heure Pierre Brunel. « Tout poète véritable doit être une incarnation. » Ou bien dans « Les bons chiens », le poème en prose, « La nécessité, cette vraie patronne des intelligences. » Si le besoin de poésie est plus originaire que la fin elle-même, il invalide les idées, les systèmes d'idées, modernes ou non, historiques en tout cas, qui ne sont pas enracinés dans l'épreuve incarnée de la vie. D'où suit qu'on peut lire, sous ce jour, maintenant, les propositions de poétique spéciale qui, très fragmentées et assez allusives, sont tout de même extrêmement cohérentes dans les 4 projets de préface aux Fleurs du Mal qu'il n'a finalement pas publié et sur lesquels l'essentiel de mon exposé portera. Je cite, là ça prend quand même une douzaine de lignes, l'un de ces 4 projets de préface, c'est un texte de 1861. J'avais, dit Baudelaire, j'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques et en même temps d'expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Qu'est-ce que la poésie? Quel est son but? De la distinction du bien d'avec le beau, de la beauté dans le mal, que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, de l'adaptation du style au sujet, de la vanité et du danger de l'inspiration, etc., etc. Mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques. Soudain, une indolence du poids de 20 atmosphères s'est abattue sur moi et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent. Et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. » Fin de citation. Eh bien, ce texte synthétise superbement la critique radicale qu'il faut adresser à toute interprétation historiographique de la poésie. La question du besoin de la poésie s'y trouve nouée à l'incrimination de la lumière moderne. C'est parce que celle-ci, fanal obscur, comme il dit ailleurs, méconnaît l'essence de l'homme qui est d'être invivant, c'est-à-dire constitué par des besoins. Et c'est parce qu'elle ignore que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, que cette lumière obscurcit les problèmes de la poétique et qu'elle assigne à la poésie d'autres buts qu'elle-même, prétendant la subordonner au bien, aux bonnes mœurs, à l'histoire, sans comprendre qu'elle est un travail, non pas une inspiration, et sans comprendre qu'elle est enracinée en tant que travail dans la chair vivante et besogneuse, non dans des idéaux censés la précéder. Cette lumière développe ainsi un complet contresens qui décourage le poète lorsqu'elle se manifeste à lui sous la forme alors triomphale des feuilles publiques. Car ces dernières, feuilles comme elles sont, et publiques comme elles sont, répandent son discours et son idée du monde, son monde comme système de représentation, sa représentation de l'histoire et de l'histoire comme représentation. On comprend qu'accablé par le poids de ces 20 atmosphères que déversent sur lui ces dictionnaires d'historicisme, eh bien le poète renonce à achever sa démonstration ébauchée. Qu'est-ce que la poésie, demande pourtant Baudelaire. Qu'est-ce que la poésie, virgule, quel est son but ? Fin de citation. Eh bien, sa réponse est parfaitement claire. Poésie est le nom, selon la lettre du texte, d'une réponse. Poésie est le nom d'une réponse dans l'homme, par le rythme et la rime, à ses immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise. Poésie est le nom, je traduis, dans mon vocabulaire, si j'ose dire, d'une réponse, poésie est le nom d'une réponse de la parole à l'affect. Le nom d'une convenance et d'une correspondance entre la verbalité et les besoins subjectifs. Poésie veut dire expression verbalisée de besoins que Baudelaire appelle immortels et tels que ces besoins se répondent à eux-mêmes dans leur propre expression, se satisfont et se réjouissent dans l'homme de cette réponse que leur fournit leur expression. Comme Baudelaire le disait déjà dès 1851 dans les drames et les romans honnêtes, où il attaque avec une extrême violence la littérature qui obéit à un programme et à une pensée antérieure à son travail, je cite, « Le métier de poète consiste à exprimer les mouvements lyriques de l'âme dans un rythme réglé par la tradition. » Et il n'aura absolument pas bougé 10 ans plus tard, par exemple, quand il écrira la même chose dans la dédicace du Spleen de Paris, disant alors avoir rêvé, vous le savez bien, d'une prose poétique musicale, je cite, « assez souple et assez heurtée, pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. » La raison pour laquelle la poésie n'est pas déterminable historiquement n'est pas d'abord ni essentiellement un phénomène de l'histoire et au contraire n'est d'abord rien de mondain, rien de social, rien même originairement de commun et par suite rien de moderne ni de non moderne est la suivante. La poésie est une réponse affective dans l'homme. Dans l'homme, cela veut dire dans l'individu réel et à chaque fois singulier, à ses besoins affectifs. Elle est le métier, dit Baudelaire, d'abord strictement intérieur, solitaire et invisible, par lequel, dans le rythme et la rime, ou dans la prose poétique musicale, l'âme individuelle trouve sa réponse verbale à ses mouvements émotionnels, sa réponse qui est à la fois son expression et sa correspondance, et en laquelle elle se réjouit d'elle-même, sans autre but qu'elle-même. Dans la poésie ainsi entendue comme ce métier de l'âme, comme ce travail par lequel l'âme s'exprimant accouche d'une satisfaction verbale à ses besoins affectifs, il n'y a aucune place, du moins d'abord, pour quelque chose comme une morale, pour une idée du bien, pour un programme ou pour une idéologie quelconque. Il n'y a aucune place pour ce que l'époque ou le siècle ou quelque histoire que ce soit recommande ou dissuade. Et il n'y a là ni modernité ni critique de celle-ci, car rien d'autre dans ce métier ne se produit que comme cet auto-mouvement par lequel, dans l'homme, par la prosodie, l'âme se répond et se réjouit. Comme disait Mallarmé d'ailleurs, l'âme est un nœud rythmique. Alors appelons prosodie, puisque c'est le vocabulaire du poète, appelons prosodie ce que Baudelaire, parlant des fleurs du mal, appelle le rythme et la rime, et parlant du spleen de Paris, ce qu'il appelle une prose poétique musicale sans rythme et sans rime. Dans les deux cas, il s'agit d'adapter la verbalité à l'affectivité, de faire de l'expression une réponse convenable aux besoins. Il s'agit du même métier, avec d'autres moyens, du même rapport à soi de la subjectivité, qui n'est rien de mondain, rien d'idéologique, rien qu'on puisse déterminer en troisième personne par le dehors d'un savoir ou d'une pensée. La prosodie, comme il est dit dans les notes nouvelles sur Edgar Poe, est, je cite, l'adaptation du rythme au sentiment. L'adaptation du rythme au sentiment. Elle est le métier du poète, elle est le travail par lequel l'âme accouche d'elle-même, accédant au poème. Prosodie désigne le passage de l'affectivité qui n'est rien de verbal à la verbalité et dans la verbalité. C'est parce que la prosodie est cette relation de l'âme avec elle-même, c'est parce que son ouvrage est la convenance de l'âme verbalisée à l'âme affective, que Baudelaire, dans le texte même où il suggère ces choses, peut s'emporter contre ceux qui, je cite, « ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre », c'est-à-dire ceux qui usent précisément de la lumière moderne. Car confondre, comme ils le font, le beau avec le bien, c'est ne pas savoir que le beau n'est d'abord rien d'une idée, rien d'une pensée, rien d'une représentation du monde, n'étant d'abord que cette réponse que la subjectivité se donne à soi pour se satisfaire. Et de même, vouloir croire, comme ces modernes le font aussi, que le poète ne travaille pas, que le poète est tributaire d'une inspiration supérieure, c'est encore ne pas savoir qu'il n'est assujetti à rien d'autre que lui-même et qu'il est requis non pas par une instance extérieure, comme dans le cas de la supposée inspiration, qu'il est requis non pas par une instance externe, non pas par quelque puissance étrangère à lui-même qui l'élirait, par exemple, pour l'inspirer, mais par son âme, par le dedans de soi, et seulement par les besoins de celle-ci, par les mouvements lyriques, dit Baudelaire, intimes à elle-même, auxquels il faut qu'une prosodie, qu'elle soit en vers ou en prose, s'adapte et corresponde. C'est parce qu'il n'est pas inspiré, et en vérité, c'est parce qu'il ne peut pas l'être, que le poète qui, en revanche, travaille, n'est assujetti qu'aux réclamations singulières de son pathos intérieur et n'est le desservant d'aucune extériorité. Ni le monde, ni l'histoire, ni la modernité, ni quelque idée ou loi que ce soit n'est susceptible d'exiger son ouvrage, n'est susceptible de correspondre à ses besoins. La prosodie, comme travail, est ce dans quoi est fondée la critique baudelairienne de la réquisition moderne d'une poésie inféodée aux idées historiques. Alors je lis maintenant le deuxième projet de préface pour Les fleurs du mal, dont on ne sait pas trop la date. Voici le texte. Baudelaire se propose d'expliquer diverses choses, et par exemple celle-ci. Comment, par une série d'efforts déterminés, l'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle? Comment la poésie touche à la musique? Par une prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique. Que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue, comme les langues latines et anglaises. Pourquoi tout poète, qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes, est incapable d'exprimer une idée quelconque? Fin de citation. Que seul le poète qui connaît les possibilités sonores de chaque mot soit capable d'exprimer des idées, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les idées d'un poète ne sont pas celles qu'instituent les usages ordinaires de la langue, ne sont pas des idées dont la genèse soit historique, mais sont des idées elles-mêmes sonores, suscitées par des analogies prosodiques entre les mots susceptibles de rimer de quelque façon. Le possible des mots, pour l'âme du prosodiste qui les travaille à même ses besoins subjectifs, ne dépend pas des paradigmes sémantiques dont chacun d'eux relève, ne dépend pas des relations notionnelles que chacun entretient avec d'autres qui lui sont sémantiquement voisins. Non, il dépend d'associations phoniques, chaque mot ne venant lyriquement au travail du prosodiste que selon sa matérialité sonore et selon ses appartenances à une famille acoustique, elle-même strictement personnelle à celui qui l'exprime. De sorte que les idées que suscite ce travail essentiellement musical ne sont pas et ne peuvent pas être les idées de la multitude, c'est-à-dire des feuilles publiques, de la pensée moderne, du siècle, de la politique, du savoir mondain, de l'histoire. Elles ne peuvent pas non plus être des idées non modernes, d'ailleurs, pour autant que ces dernières, comme les modernes, sont toujours déjà prises dans l'idéologie, toujours déjà constituées par des associations notionnelles, c'est-à-dire extérieures aux besoins de l'âme et à la musique des émotions. Les idées, donc, non pas de l'écrivain, il est évident qu'il y a quand même un écrivain dans un poète, mais les idées non pas de l'écrivain, si ce mot d'écrivain désigne la personne sociale ayant telle ou telle idée, précisément, historiquement déterminée, mais les idées du poète comme prosodiste, ce mot, nommant cette fois, eh bien, l'âme besogneuse. Les idées du poète comme prosodiste sont musicales à tous égards. D'une part, elles procèdent, je recite le texte, des émotions lyriques de l'âme, ce qui veut dire qu'elles sont pathétiques, émotionnelles, absolument singulières et invisibles, audibles dans la seule profondeur de l'intime, et puis d'autre part, elles correspondent à ces émotions sur un mode lui aussi tonal, en vertu des relations prosodiques que les mots qui les portent établissent entre eux, sur la base de leur son et non pas sur celle de leur signifié. Ce qui veut dire qu'elles forment, même une fois l'ouvrage fini, non pas des structures d'idées mondaines, mais des réponses conformes à leurs besoins. Quelle est donc cette prosodie, comme dit Baudelaire, cette prosodie mystérieuse et méconnue qu'il reconnaissait à la poésie française? Eh bien, la prosodie est mystérieuse en tant que prosodie, c'est-à-dire par essence. Elle est secrète, elle est soustraite à la conscience commune, pour cette raison immanente à elle-même et irréductible, que cette conscience commune, elle, pense par signifier, forme ses idées par les rapports sémantiques entre les mots, quand la prosodie, travail intime, forme ses idées musicalement. Baudelaire oppose non pas telle idée mondaine à telle autre idée mondaine, non pas telle vision historique de l'histoire à telle autre, structurellement analogue. Et donc il oppose non pas une idée moderne à une idée classique ou à une idée traditionnelle, ni à une idée réputée réactionnaire ou contre-révolutionnaire, ou à une idée progressiste, ni le contraire. Il oppose la solitude de l'âme à la communauté des discours et le musical au discursif. Je cite « Comment la poésie touche à la musique par une prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique. » Et quand la musique des besoins intérieurs trouve sa réponse satisfaisante dans la musique des rapports sonores entre les mots, alors l'ouvrage est fini. Et non seulement il est fini, mais il est original. Je cite encore, « Comment, par une série d'efforts déterminés, l'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle ?» Baudelaire, du moins le Baudelaire dont je parle ici, autrement dit non pas l'auteur d'un corpus littéraire identifiable en termes d'histoire, mais le prosodiste au travail, n'est pas original parce qu'il est moderne, n'est pas original parce qu'il est classique ou romantique, ou quoi que ce soit que l'historiographie peut dire, parce qu'il est d'abord prosodiste, d'abord mystérieux, secret et inconnu. Un horrible travailleur, dirait Rimbaud, un original absolu, au sens où son travail invisible fut de rester fidèle à ce qui en lui fut originaire. Comment comprendre le rapport de proportionnalité que Baudelaire donne ici comme s'établissant entre la série d'efforts déterminés du prosodiste et l'originalité à laquelle il peut s'élever? Comment le comprendre? Comment comprendre que la prosodie soit un tel travail? D'où vient qu'elle exige des efforts et que ces efforts garantissent à l'ouvrage une originalité proportionnelle? Je reprends le deuxième projet de préface et pour sa provocation très fameuse que vous allez reconnaître lorsque Baudelaire prétend réduire son travail de poète à une insensibilité divine, n'est-ce pas? Je le cite donc. Comment, appuyé sur mes principes et disposant de la science que je me charge de lui enseigner en 20 leçons, tout homme devient capable de composer une tragédie qui ne sera pas plus sifflée qu'une autre, ou d'aligner un poème de la longueur nécessaire pour être aussi ennuyeux que tout poème épique connu. Fin de citation. Le comique de cette provocation vient de ce qu'elle renverse, l'intelligence ordinaire du siècle, laquelle admet en préalable que le poète est inspiré, que les contenus de son œuvre dépendent d'une idéalité à laquelle ils sont dus, l'idéalité du bien s'il est bien inspiré, de la vertu s'il s'inspire de la vertu, et du mal s'il est mal inspiré, l'idéalité moderne s'il croit au gaz et à la vapeur, traditionnelle s'il croit plutôt aux coutumes établies et à la papauté, disons, et les 20 leçons d'insensibilité que Baudelaire se propose d'administrer à qui voudra l'entendre seront la preuve par l'absurde de l'obscurcissement des questions de poétique par la lumière moderne. Mais si le travail, je m'appuie sur la définition que à la fois Marx et Maine de Biran ont donnée de cette notion, si le travail est l'épreuve affective, ce que Maine de Biran appelle l'effort tout simplement, si le travail est l'épreuve affective par laquelle un individu transforme un matériau, si donc, en l'occurrence, le travail du prosodiste est l'épreuve intime de la résistance de la langue à sa transformation en musique, il convient de distinguer ce travail, cet effort, de ce qu'on nomme en ergonomie la tâche, laquelle désigne non pas le travail réel, mais le travail prescrit, à la prescription duquel, d'ailleurs, l'individu adapte son activité. Les 20 leçons de technique prosodique que l'ironie de Baudelaire peut enseigner définissent une tâche. Et c'est l'accomplissement de celle-ci qui aboutirait à une tragédie pas plus sifflée qu'une autre ou à un poème aussi ennuyeux qu'un autre. Sauf qu'entre la tâche et le tâcheron se trouve la possibilité d'un infini. Pour autant que la résistance du matériau suscite la souffrance du travailleur et que peut alors commencer le vrai travail, celui que Marx appelle réel ou vivant, qui est identique à l'effort. Baudelaire peut enseigner comment on réalise une tâche, d'ailleurs tout le monde peut le faire, comment l'homme moderne ou pas moderne peut fabriquer une œuvre quelconque, disons de la littérature, mais certes, il ne peut pas enseigner comment souffrir, comment endurer la peine de l'effort, comment résister à la résistance du matériau, bref, comment travailler. Le travail du prosodiste, la poésie, n'est pas l'accomplissement d'une tâche, laquelle est la littérature. Il n'est donc pas enseignable. Car le travail du prosodiste a son site en lui-même, dans la matière de la souffrance dont il est fait, dans l'endurance pathétique qui le constitue comme effort. Et c'est pourquoi il ne ressortit pas aux catégories par lesquelles l'histoire l'identifie, dans lesquelles un enseignement trouve son fondement, et c'est pourquoi il ne peut pas dépendre d'une idéalité extérieure. Bien. Alors, je peux quitter les textes métapoétiques maintenant pour écouter Baudelaire en ses poèmes et pour revisiter désormais la difficulté créatrice de Baudelaire en me plaçant alors sous l'autorité de Claude Pichois et de l'admirable et à mes yeux fondamental article qu'il avait publié en 1967, Baudelaire ou la difficulté créatrice. Vous vous souvenez du guignon, n'est-ce pas? Parce qu'enfin, Baudelaire a passé sa vie à se plaindre de son impuissance au travail, de la lourdeur épouvantable de son travail, de sa procrastination, de sa paresse, n'est-ce pas? Et qui, on se le demande, qui a jamais eu autant à souffrir de sa besogne que lui? Le guignon, vous vous en souvenez, pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Le mauvais moine, vous vous en souvenez aussi, ô moine fainéant, quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère, le travail de mes mains et l'amour de mes yeux? Ou bien la cloche fêlée, l'un des poèmes les plus impressionnants à cet égard, et à d'autres égards. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Eh bien, ce n'est pas dans l'histoire, je le répète encore, ce n'est pas dans l'histoire que le travail baudelairien a son essence, c'est dans ses immenses efforts, ce n'est pas dans le monde que le poète travaille, c'est là seulement où s'éprouve en lui l'accablement de son courage sous ce poids si lourd. De sorte que si ces poèmes nous touchent, autrement dit d'ailleurs, si ce sont des poèmes. Autrement dit encore, s'ils répondent en nous à notre besoin de poésie, à nos immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, c'est qu'ils correspondent à notre propre souffrance. Ce n'est pas pour ce qu'ils font dans le monde, ce n'est pas pour leur signification historico-littéraire, ni parce qu'ils participent plus ou moins à nos représentations séculaires, à nos discours. Non, c'est parce qu'ils éveillent en nous, du fait de leur prosodie extraordinairement intonée, eh bien, des tonalités affectives en lesquelles nos vies individuelles se réjouissent à leur tour. Toutes les difficultés de Baudelaire, à cet égard, tiennent à l'hétérogénéité entre l'affectivité et la verbalité. Il faut que le travail prosodique fasse l'expérience du gouffre. Autrement dit, il faut qu'il franchisse ce gouffre entre ce qui n'est pas verbal et la langue. Les difficultés du poète ne sont pas historiques. Elles sont enracinées dans l'invisibilité de l'âme, qu'il faut faire passer au visible et dans le visible. C'est la raison pour laquelle, parlant de son travail, Baudelaire nomme celui-ci un accouchement. Alors là, les citations sont très nombreuses, mais comme leur tourne, je n'en fais entendre qu'une ou deux. À sa mère, par exemple, « Voici mon premier bientôt mon premier drame dont il faudra bien que j'accouche, bon gré et mal gré. » Ou bien à sa mère encore, « Il faut que j'accouche de deux articles. » Ou bien, enfin, les exemples sont très nombreux que je pourrais produire tout à l'heure s'il le faut. Il faut rapporter cette métaphorisation de son travail par l'accouchement, qui n'est pas tant une métaphore d'ailleurs, de cette citation que je fais entendre maintenant, qui est assez émouvante aussi, à sa mère. « Je pense à tout jamais que la femme qui a souffert et fait un enfant est la seule qui soit l'égale de l'homme, engendrée est la seule chose qui donne à la femme l'intelligence morale. » On peut vouloir croire qu'il s'agit d'un propos sexiste, mais plus avant, on peut deviner quelque chose de l'accouchement baudelairien dans l'édition diplomatique des Fleurs du Mal établie par Claude Pichois et Jacques Dupont, où sont donnés à lire tous les manuscrits connus, tous les placards connus, toutes les épreuves d'imprimerie. Ce sont vraiment des reliques de sa souffrance, n'est-ce pas ? Des empreintes de l'intériorité au travail. Les soulignements, les reprises des formulations, les points d'exclamation, d'interrogation, les changements d'encre, les changements de papier, les substitutions des majuscules aux minuscules et inversement, les tirets marginaux, les encadrements, et puis toute cette encre qui coule et qui souligne 6 fois de suite tel ou tel mot que Poulet-Malassis ne va pas comprendre. Terrible a été le travail de Baudelaire, ce travail identique à sa vie, n'est-ce pas, qui n'est que l'expression dont la passion est inscrite dans ce monument de ses papiers. Eh bien, ce travail fut le travail du désespoir, au sens de ce mot chez Kierkegaard. Le travail de Baudelaire fut le travail du désespoir, c'est-à-dire une saisie de la subjectivité par elle-même, en tant qu'assujettie à sa solitude essentielle. Laquelle solitude est son inaptitude à sortir de soi, son impossibilité de n'être pas rivée à soi, de n'être pas vivante. Le travail de Baudelaire fut l'insistance de son endurance, autrement dit l'épreuve radicalisée que fait la subjectivité, de quiconque existe d'ailleurs, de son obligation de se souffrir dans l'impossibilité de se supporter. Ces choses sont dites dans les grands poèmes que vous connaissez, « Le masque, elle pleure insensée parce qu'elle a vécu », n'est-ce pas ? Et quelques autres, par exemple, « À 1 heure du matin » ou bien « La solitude », n'est-ce pas ? Par exemple, dans « La solitude », Baudelaire oppose aux bavardages oratoires, à la rhétorique de la belle langue de mon siècle, comme il dit, eh bien, un entretien de soi avec soi, dans la jouissance de soi, dans les ténèbres rafraîchissantes, n'est-ce pas, où la subjectivité non historique se plaît en tant que monade affective. Eh bien, j'en ai assez dit pour le moment. La prosodie, dirais-je en conclusion, eh bien, c'est l'expression des mouvements lyriques de l'âme. Et c'est comme tel qu'elle rend possible que le poète soit une incarnation, qu'elle rend possible que son verbe soit affecté par ses passions, et c'est comme tel que sa vérité n'est pas historique. Dans un essai, c'est-à-dire les drames et les romans honnêtes, encore une fois, Baudelaire demande ceci. L'art est-il utile ? Et il répond oui. Pourquoi ? Parce qu'il est l'art. Y a-t-il un art pernicieux ? Oui. Lequel ? C'est celui qui dérange les conditions de la vie. Requis seulement par la vie, le poète n'est d'aucun parti, comme il est dit aussi dans le deuxième projet de préface aux Fleurs du Mal. Je vous remercie.